Panthéon. Nicolas Jamain.
Il représente pas le football, il est le football.
Pelé va dentro! Gol du Brasil!
Moi je parle d'artiste. Pelé était un garçon qui crée.
Rivelino, direct pra área. No alto Pelé!
Il a marqué le football comme personne d'autre ne l'a marqué.
Je crois que le football a donné à Pelé. Le football me a donné tout.
Il s'est goûté, il s'est Pelé. Il met à deux, il s'est Mané. Il s'est dit zéro, il s'est Premier dans cette tricopieux.
C'est l'histoire d'un footballeur brésilien. C'est l'histoire du footballeur brésilien. C'est l'histoire du football, de la première star mondiale du jeu le plus universel, d'un artiste déroutant, d'un dribbleur génial et d'un buteur record. C'est l'histoire du numéro le plus mythique du football, de l'éternel numéro 10. C'est l'histoire d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé.
Pelé pediu o correio para dentro da área. Pelé!
Deuxième partie, un gamin sur le toit du monde, avec Stéphane Cohen, auteur de la biographie de Pelé. Notre deuxième épisode commence le 7 juillet 1957, au Stade Maracana, à Rio. Pelé est désormais un titulaire du Santos Football Club. Il n'a que 16 ans, mais il cumule déjà 25 buts. Et ce jour-là, ce 7 juillet 1957, avec son numéro 13 dans le dos, Pelé, 16 ans et 9 mois, s'apprête à porter pour la première fois le maillot du Brésil. Le Brésil affronte l'Argentine dans le cadre de la Copa Roca, duel en deux rencontres très attendu à l'époque entre ces deux voisins rivaux du football. Sur les images en noir et blanc, on voit un jeune garçon au regard innocent, au physique d'adolescent, entrer en jeu à la 46e minute et marquer son premier but, surtout 30 minutes plus tard, celui de l'égalisation contre l'Argentine, récent vainqueur de la Copa América.
C'était fou. Imagine-toi un gamin qui vient de l'intérieur des terres et qui joue au Maracana contre l'Argentine. Une coupe, la Copa Roca, qui était très importante à l'époque.
A bola sobrou com o Areco, disse pulo para o arco, deu para Mazola, pode chutar, chuta e gol! Pelé! Quando Mazola furava! Marca de pé esquerdo, primeiro gol para o Brasil.
Mon but, ce fut une action depuis le milieu de terrain. Il y a eu un contre, je suis entré dans la surface de réparation et j'ai marqué. Ce fut mon premier but avec la sélection brésilienne. Et ça m'a donné beaucoup de confiance, parce qu'à partir de là, alors que je n'avais que 17 ans, on m'a convoqué pour mon premier mondial en Suède. J'allais sur mes 18 ans.
Nous voilà donc au début de la grande histoire de la légende Pelé. L'année 1958, celle de la révélation au monde. La Suède a été choisie pour accueillir le 6e mondial de l'histoire. Et ce gamin de 17 ans la jouera. Pourtant, sa sélection dans le groupe ne répond à aucune évidence. Le psychologue de la fédération, un certain João Cavalies, fait passer le test cognitif aux joueurs. Et il juge que Pelé est manifestement un enfant et qu'il est inapte à affronter l'adversité des grands matchs.
Oui, mais il est tellement doué. Il est tellement doué que l'entraîneur Vicente Feola insiste absolument pour qu'il participe à cet événement et insiste même auprès des dirigeants de la fédération pour dire s'il est en bonne santé, il jouera. Mais la santé, voilà le gros problème de cette génération. Il ne faut pas oublier que le traumatisme du Maracanazo demeure. Dans les têtes des Brésiliens, il y a encore le traumatisme de 1950, cette défaite qui a fait du Brésil finalement un peuple de losers. Et ça, la fédération n'en veut pas. Ils veulent envoyer des guerriers, des hommes qui seront en mesure de devenir des champions du monde, de monter sur le toit du monde. Alors, tout doué qu'il est, le jeune Pelé, s'il est blessé, on lui préférerait plutôt Luizinho, parce que Luizinho, c'est un autre joueur que beaucoup au Brésil estime le titulaire du poste d'avant-centre. On ne comprend pas pourquoi on met ce gamin de même pas 18 ans à la place d'un joueur qui a fait ses preuves et qui est très réputé au Brésil. On décide d'organiser un match. Un match entre la sélection du Brésil, dans laquelle évolue Pelé, et le club des Corinthians, où évolue le fameux Luizinho. Et il se trouve qu'au cours de ce match, Luizinho est transparent, Et qu'en plus de ça, Pelé lui-même est blessé par un partenaire de Luizinho. Il se trouve que Luizinho, son compte est réglé sur cette fade prestation. Et que de l'autre, Pelé n'a même plus l'assurance d'y aller parce qu'il a été touché au niveau du genou. Donc le suspense durera. Et là intervient un monsieur qui a beaucoup d'importance dans sa vie, qui s'appelle Mario Américo, et qui est en fait un peu le confident et le sauveur des joueurs. C'est lui qui recueille tous leurs problèmes, leurs confidences, et c'est lui qui leur promet de s'occuper d'eux. Et c'est ce qu'il dit à Pelé après cette blessure. Il lui dit « Je vais m'occuper de toi, tu vas pouvoir jouer en Suède ».
La sélection s'envole donc pour la Suède et atterrit dans un groupe qui fait peur. L'Angleterre et son statut d'inventeur du football. L'inquiétante URSS du gardien, Lev Yashin, et l'Autriche qui fait partie des favoris avec l'Allemagne. Mais le monde doit encore patienter avant d'assister à l'éclosion du jeune Pelé. Le 8 juin, la Seleção balaye à la surprise générale les Autrichiens 3-0. Pelé ne joue pas ce match. Trois jours plus tard, match nul, 0-0 contre l'Angleterre. Pelé ne joue toujours pas. Les Brésiliens doivent donc battre l'URSS pour éviter un match d'appui. Le sélectionneur Vicente Feola décide alors de lancer le jeune Pelé. Et à ses côtés, un autre joueur, plus âgé, il a 25 ans. Il est le leader de Botafogo, génie du dribble aux jambes tordues. Son nom, Garrincha. Feola pense que ces deux-là vont ajouter ce grain de folie qui a manqué aux Brésiliens contre les Anglais. Vava, le buteur de Vasco de Gama, est aussi aligné. Et le début de match est un festival de dribbles chaloupés de Garrincha sur son côté droit. Pelé, lui, s'amuse dans l'axe au milieu des joueurs soviétiques. Ce sont les trois plus belles minutes de l'histoire du football, dira plus tard le sélectionneur de l'équipe de France, Gabriel Anneau. Trois minutes ponctuées par l'ouverture du score de Vava. Puis 2-0, doublé de Vava. La plus belle paire de remplaçants du monde a réussi son pari. La magie a opéré. Voici le Brésil qualifié pour les quarts de finale. Le 19 juin, il affronte et bat le Pays de Galles. Premier but de Pelé en Coupe du Monde. Le 24 juin, l'équipe de France en demi-finale. Les Bleus portés par un Juste Fontaine à 8 buts, guidés par un Raymond Kopa, chef d'orchestre. Les 5 premières minutes sont un supplice. L'équipe de France ne franchit pas le rond central. Vava ouvre le score. Fontaine égalise, mais la suite est un récital à Oriverde.
Aí o time brasileiro, cruzamento, mergulhou, largou Pelé lá dentro! Gol! Fez o passe do Pelé, furou, voltou, Pelé emendou lá dentro! Gol! Empurrou na frente pro Pelé lá dentro! Gol!
Didi puis Pelé pour un triplé, victoire retentissante 8 ans après le Maracanazo. Le Brésil est en finale de Coupe du Monde. La finale est programmée le 29 juin. Et dans les jours qui la précèdent, un traumatisme est réveillé. Les Brésiliens ne peuvent jouer dans leur couleur traditionnelle, le jaune, celle que portent les Suédois. Le docteur Paulo Machado de Carvalho, vice-président de la fédération, décide de faire porter un maillot blanc aux Brésiliens, comme lors de la finale 1950. Les joueurs refusent. Ils optent pour le bleu. C'est ainsi que pour la première fois de sa carrière, Pelé va arborer un numéro qui va faire sa légende et celle de beaucoup d'autres grands joueurs ensuite, le numéro 10.
Numéro frappé de toutes les légendes, qui a vu à partir de Pelé son aura exploser, puisqu'il a été porté par les plus grands, à commencer par Michel Platini, un peu plus tard Zinedine Zidane. Le numéro 10 est devenu l'incarnation un peu fantasmée du créateur, de celui qui fait gagner l'équipe, de celui qui porte l'équipe vers l'avant, du génie qui offre les possibilités de victoire et de but à ses coéquipiers. En fait, le 10 va devenir l'incarnation du cerveau qui réunit 11 hommes sur un terrain.
Nous voilà donc le jour de la finale. Pelé est évidemment titulaire, aux côtés de Garrincha, Vava, Zagallo. Les Suédois surprennent dès le début du match les Brésiliens. 1-0, but de Lindholm à la 4e minute. La suite est un des épisodes les plus connus de l'histoire du football. Vava marque deux fois et à la 55e minute de jeu, Pelé écrit sa légende.
Nascosto in aria d'aria, tenta levantar para Pelé, escorre buona ora para no centro domina, tira il spettacolare del Vasco, alla fine gol! Magistrale gol di Pelé!
Contrôle poitrine, grand pot aérien, reprise pied droit, ça fait 3-1, puis 4-1 grâce à Zagallo. Le public chante samba, samba, la Suède réduit l'écart, 4 buts à 2, avant que Pelé s'envole dans le ciel de Stockholm.
Orlando para Pelé, Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara, se tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil.
Le Brésil s'impose 5-2, remporte sa première Coupe du Monde. Pelé est champion du monde. Il n'a que 17 ans et 249 jours. Il a marqué deux fois. Une image fait le tour du monde, celle d'un gamin en pleurs, porté au nu par ses coéquipiers. Un gosse de Bauru, Brésil, qui avait fait la promesse à son père qu'il la gagnerait un jour, cette Coupe du Monde. C'est le triomphe de Pelé. C'est la victoire d'un football sensuel joué par des Brésiliens qui jouent des hanches quand les autres ne jouent qu'avec leurs pieds. Le triomphe d'un football qui colle parfaitement à l'essor d'un nouveau style musical, la bossa nova.
Ils ont une façon de jouer qu'on ne comprend pas.
Sherif Guémour, journaliste à SoFoot.
Ils ont une façon d'attaquer le ballon, de jouer avec, qu'on ne comprend pas, avec certaines parties du corps, certaines parties du pied. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, parce qu'on ne pense pas tout de suite à la bossa nova. Il y a quelque chose du domaine de l'instinctif, et là on rejoint la musique, la danse.
Les jours qui suivent ce triomphe inattendu plongent le jeune Pelé dans un tourbillon médiatique sans précédent. En France, il fait la une de Paris Match, qui le nomme pour la première fois le roi du football. Le surnom va l'accompagner toute sa vie. De retour au Brésil, il est fêté avec ses coéquipiers de ville en ville. On le voit sur les images, affiché toujours ce même sourire juvénile. Il ne rechigne jamais, mais il semble parfois dépassé par la ferveur qui l'accompagne. Partout où il passe, tout le monde veut approcher Pelé.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, le monde s'ouvre à nouveau. On est quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Le Brésil, clairement, n'est pas sur la carte du monde nouveau. Pelé va le faire rentrer en une quinzaine de jours. Il va montrer au monde entier que le Brésil est une terre de football, une terre de soleil, une terre de joueurs qui dansent sur le terrain. Dans un contexte de début de mondialisation, les premières grosses exportations commencent à se faire entre l'Europe et l'Amérique. Dans un contexte où la télévision s'invite dans les foyers, pas partout bien évidemment, il faut savoir qu'en 1958, après la victoire et même le retour des Brésiliens sur leur sol natal pour fêter la victoire en Suède, il faudra parfois jusqu'à un mois de patience à ceux qui sont venus les applaudir à la descente de l'avion pour voir les images de la victoire contre la France en demi-finale, puis la Suède en finale. Et le Brésil, de par cette victoire sportive, est en train de rentrer dans ce concert des nations qui renaissent.
Il n'a pas encore 18 ans et il devient le symbole de l'émancipation brésilienne. La fierté des gamins des favelas de Rio et des bourgeois d'Ipanema. Les plus grands clubs européens veulent attirer ce jeune Brésilien. La Juventus Turin, Manchester United, le Real Madrid insistent. Mais il est retenu au Brésil. Son président à Santos est sous pression. Il est même menacé de mort par ceux qui ne veulent pas le voir traverser l'Atlantique.
Ah ben c'est bien simple, il l'a dit au cours d'une interview, il l'a dit expressément au micro d'un journaliste brésilien, si je cède Pelé à n'importe quel club en Europe, je suis un homme mort.
Quelques semaines après le titre mondial, il rencontre la première femme de sa vie. Elle s'appelle José Mery Cholbi. Cette relation crée une polémique au Brésil car il est noir et elle est blanche.
Pelé arrive en tant que star du football et donc star nationale. Oh mon Dieu, et qu'il fréquente une jeune fille blanche, il casse un mur incroyable de différence entre les ethnies. C'est bien vu par certains, mais par la grande majorité, y compris des militants et des activistes de la cause noire, c'est mal vu qu'ils soient en relation avec une jeune fille blanche.
Ils auront 3 enfants ensemble avant de divorcer en 1982, car il n'y avait pas assez de passion, dira plus tard Pelé. Aussi parce qu'il y a eu de nombreuses infidélités.
Était-ce difficile de rester fidèle avec toutes ces filles qui se jetaient sur vous ?
Honnêtement, oui, c'était dur. J'ai eu des liaisons dont sont nés des enfants, mais je ne l'ai appris que plus tard. Ma première femme était au courant de tout. Je n'ai jamais menti à personne.
Vous écrivez, Stéphane, Pelé avait une propension d'enfant gâté à ne rien se refuser, à commencer par les conquêtes féminines.
Oui, et c'est un peu ce que j'ai essayé de traduire en filigrane le long de ce récit, c'est qu'il n'a jamais cessé d'être un enfant. Lui était un enfant qui aimait jouir de la vie, jouir des belles choses que lui offrait ce monde, le soleil, le football et les compagnies, notamment féminines. À l'époque, il a eu l'opportunité de pouvoir avoir un semblant de vie intime dans une vie, celle de Pelé, la personne publique, qui n'en avait pas. Il faut savoir quand même que 90% de son temps était consacré à des voyages, des tournées, des entraînements, des matchs de football, des opérations commerciales, comme on dirait aujourd'hui, et que de vie de famille, il n'a quasiment pas eu. Alors après, on pourra toujours faire son procès en tant que père, en tant que mari, mais c'est vrai qu'au départ, l'histoire était biaisée. N'étant quasiment jamais présent, et bien qu'ayant 3 enfants d'une même femme, ça a été difficile, effectivement, en plus de ça, avec ses propensions à jouir de la vie, d'être le mari exemplaire et fidèle qu'il n'a pas pu être.
D'une de ses infidélités naîtra une fille que Pelé n'a jamais voulu reconnaître. Sandra Machado, issue d'une relation avec une femme de chambre. Sur les terrains, Pelé est toujours aussi efficace. Il enfile les matchs et les buts avec son club, le Santos FC. Il porte son total à 355 buts en 1961. Il a 21 ans, mais les rencontres ne sont pas diffusées à l'étranger. Et le monde ne veut pas attendre le Mondial 1962 pour le revoir à l'œuvre. Son club organise alors tous les 6 mois des tournées lucratives sur le continent américain, européen. Il faut surfer sur la popularité du prodige, d'autant qu'il est devenu une marque dans un monde capitaliste en pleine expansion. Entre le football, les opérations commerciales et les voyages, Pelé n'a pas 2 jours de liberté. Il ne s'appartient plus. Nous sommes le 17 juin 1962, à l'Estadio Nacional de Santiago, Chili. Le Brésil s'apprête à vivre une 2e finale de Coupe du Monde consécutive. Son adversaire, la Tchécoslovaquie. Au coup d'envoi, Pelé n'est pas là. Il est en tribune, habillé en civil. Cela fait 2 semaines qu'il est spectateur du parcours de ses coéquipiers. Depuis la 25e minute du 2e match de la Seleção, déjà contre la Tchécoslovaquie. Il s'est blessé, tout seul, en frappant le ballon. Il sera tout de même sacré champion du monde pour la 2e fois. Comment a-t-il vécu ce mondial chilien ? Est-ce qu'il se considère à ce moment-là comme champion du monde ?
Ah oui, tout à fait. Il fait partie d'une grande famille maintenant. Ce n'est plus le jeune espoir de 1958. Pelé est une star mondiale. C'est le leader consacré de l'équipe. Par chance pour lui, il va trouver en Garrincha un sauveur. L'homme qui va faire gagner finalement la Coupe du Monde 1962 au Brésil, c'est bien Garrincha. Avec une participation minimaliste de Pelé au cours du premier match où effectivement, ça faisait longtemps que ses adducteurs sifflaient, comme on dit. Et il y a quelque chose qui l'aura toujours mis en avant, c'est la sportivité avec laquelle les Tchécoslovaques ont respecté cette blessure. Vous savez qu'à cette époque, il n'y avait pas de remplaçant. Un homme blessé continuait de jouer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Lui est donc resté pendant pas mal de temps sur le terrain, faisant de la figuration au mieux, Et pendant tout ce temps-là, lorsqu'il a eu le ballon, les Tchécoslovaques ne l'ont jamais attaqué frontalement ou ne l'ont jamais agressé physiquement pour lui retirer le contrôle du ballon. Et Pelé a toujours insisté sur la sportivité et le respect des footballeurs tchécoslovaques à son encontre, qui aurait pu, pour le coup, briser une partie de sa carrière.
Et il reviendra sur un terrain 2 mois plus tard au meilleur moment, pour la finale de la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine. Le Santos FC bat les Uruguayens de Peñarol. Pelé, dans le 3e match décisif, inscrit un doublé. Il offre à son équipe et au Brésil, pour la première fois, le trophée de club le plus prestigieux d'Amérique du Sud. Il gagne aussi le droit de jouer la Coupe Intercontinentale contre le double champion d'Europe en titre, le Benfica Lisbonne, d'un certain Eusebio. Nous sommes le 11 octobre 1962 et ce jour-là, Pelé réussit ce qu'il a toujours considéré comme le plus grand match de sa carrière. Santos a gagné 3-2 à l'aller, à l'Estadio Dalos, les Brésiliens s'imposent 2-0, ce que personne n'avait imaginé. Pelé a été immense, il a marqué un triplé.
Terceiro jogador, Pepe, entrando pelo comando do ataque, Pelé. Já soltou Pepe, cruzado para Zito, deixou para Pelé, invade pelo comando, atenção, gol! Sensacional o gol de Pelé, uma joia!
E por la première fois, un club brésilien remporte la Coupe Intercontinentale. Ce doublé, le Santos FC le remporte à nouveau l'année suivante, 1963. Pelé marque 4 des 7 buts de son équipe contre l'AC Milan. Il a 23 ans et a déjà inscrit près de 600 buts dans sa carrière. A remporté 2 Coupes du Monde, 2 Copa Libertadores et 2 Coupes Intercontinentales.
On doit s'habituer à jouer comme ça. Le football était plus classique avant. C'était un spectacle pour les fans. Aujourd'hui, les équipes ne pensent qu'à encaisser un minimum de buts. Le football est devenu moche. Les équipes ont un jeu plus agressif.
Cette réponse, Pelé la livre quelques jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 1966 en Angleterre. Elle est prémonitoire. Le Brésil, double champion du monde en titre, va vivre un calvaire à cause d'un football qui a évolué, plus rugueux, plus agressif.
Pour les Coupes du Monde, on était déjà dans une opposition entre l'Europe et l'Amérique du Sud.
Shérif Guémour, journaliste à SoFoot.
Pelé avec Santos, quand il a joué 2 finales de Coupe Intercontinentale, l'Europe a vu le danger. L'équipe de Santos avec Pelé, hein, ils ont battu les meilleurs clubs européens. C'est dit, oulala, il y a le Brésil qui arrive en 66, ils ont déjà gagné en 58, en 62. Et là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on les arrête, quoi. Il y avait clairement un contrat sur l'équipe du Brésil en général. Et sur Pelé en particulier.
Pelé, pendant les 3 matchs de poule, est cadenassé, entouré par 2, parfois 3 adversaires. Il est une cible qu'il faut mettre à terre. Ce que réussit le Portugais João Moraes dans le 3e match de poule. Il le tacle violemment, des 2 pieds, dès la demi-heure de jeu. Pelé est contraint de terminer la rencontre sur une jambe à une époque où il n'y avait pas de remplacement. Dans le match d'ouverture contre la Bulgarie, le défenseur Dobromir Zetchev l'avait touché au genou. Il dira d'ailleurs plus tard, j'ai commencé le travail, Moraes l'a terminé. Le Brésil est éliminé dès le premier tour. Ce mondial est le plus gros échec dans la carrière de Pelé. Il le vit mal, très mal, dégoûté par l'évolution du jeu. On le voit abattu sur les images, seul dans le quart de la sélection. 4 jours plus tard, un journaliste brésilien lui pose une question sur son avenir. La réponse déclenche un séisme.
On m'a déjà posé la question, donc je vais m'expliquer. Je n'ai plus l'intention de participer à une Coupe du Monde, car je n'ai jamais de chance. C'est le 2e mondial où je finis blessé après seulement 2 matchs.
Sair da Copa do Mundo, lá na Inglaterra, foi a maior tristeza que eu tive.
Devoir dire adieu à cette compétition fut extrêmement difficile. Je me disais, bon sang, et maintenant je fais quoi? Je me suis dit, je peux finir ma course ici. Mais j'étais triste, je venais de faire mes adieux.
Pelé est encore un jeune homme qui n'a pas 26 ans. Cette annonce, il la livre sous le coup de l'émotion, mais elle raconte son épuisement.
1966 a été dramatique à tout point de vue, sur le terrain et même en dehors. Et j'ai envie de dire que même si Moraes, le Portugais, Bezetchev, le Bulgare, ont été la source de la défection et de la grave blessure de Pelé. D'ailleurs, le journal Tutto Sport, le journal italien, avait mis à sa une la photo de ces deux joueurs accompagnés de cette légende. Voici les assassins de Pelé. C'est allé quand même très très loin à cette époque-là. Le futur président de la fédération brésilienne, João Avelange, qui ensuite sera celui de la FIFA, avec le bonheur que l'on connaît, avait même crié au complot, disant que ce n'était pas normal que 7 des 9 arbitres centraux et de touche qui aient arbitré les Brésiliens aient été des Anglais. Anglais que l'on retrouvera plus tard en finale. Et quelque part, il flotte au-dessus de cette élimination, un parfum que l'Europe a décidé d'une certaine façon de, voilà, de prendre sa revanche sur ces Brésiliens qui sont la menace absolue. Mais il y a autre chose aussi qui constitue et explique en partie la défaite d'un Brésil qui était beaucoup moins motivé qu'en 1962 et encore moins qu'en 1958. C'est un Brésil un peu usé et Garrincha commence à être bien attaqué par l'alcool. Et quant à Pelé, c'est devenu une petite starlette, il faut le dire. Il a des exigences, des petits caprices quand il arrive en Angleterre. Il demande justement à avoir un bon de sortie à son entraîneur, à son sélectionneur, pour pouvoir aller voir les Beatles en concert. Et on le lui refuse. Il ne l'accepte pas. Il pique une grosse colère, comme le ferait un enfant. Et cela constitue à faire de l'ambiance qui règne autour de la Seleção quelque chose qui annonce quelque part ce qui va se passer au-delà des simples blessures et des faits de jeu sur le terrain.
Il vit aussi le regret d'avoir fait confiance à un homme qui l'a trahi. Son manager espagnol, José González Ozores, dit Pepe El Gordo. L'homme a englouti une grande partie de sa fortune à cause d'investissements douteux.
C'est un petit voyou, hein, c'est un margoulin. Hein. C'est un Espagnol originaire de Galice qui est rentré dans l'entourage de Pelé, on ne sait pas trop comment, qui n'est pas très bien vu non plus au Brésil parce que c'est un étranger et qui a décidé, par sa bonhomie, par ses sourires, par ses tapes sur l'épaule, par son humour, à gagner la confiance de Pelé qui ne demande qu'à avoir un père de substitution quelque part, en l'absence de son vrai propre père, Don Digne, qui en plus de ça n'est pas un vrai communicant. Donc, naturellement, Pelé décide de confier ses affaires et ses intérêts à ce fameux Pepe Gordo, surnommé Pepe le Gros. Et puis très rapidement, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, Rosemary, sa femme, lui dit « Ah, je ne le sens pas ». Et puis, il y a Zito, qui est un de ses coéquipiers à Santos et en équipe du Brésil, avec qui il a fait affaire, qui se retire, qui reprend ses billes, qui décide aussi de quitter un peu le navire parce qu'il ne sent pas ces choses-là. Et effectivement, le fameux Pepe Gordo va avoir une emprise sur Pelé, au point qu'il va commencer à parler à sa place, qu'il va commencer à signer des contrats à sa place, et qu'il va faire des affaires malheureuses. Au point qu'un jour, Pelé va se rendre compte qu'il est en faillite. Tout simplement parce qu'il, Pepe Gordo, lui a fait signer un papier qui lui faisait porter la responsabilité des dettes d'une des entreprises dont il avait la charge. Et cette entreprise n'allant pas bien, on a demandé à Pelé de régler ses dettes. C'était beaucoup trop élevé, il n'avait pas l'argent, et le voilà sans le sou.
Et sa popularité au Brésil n'est plus la même. Depuis l'arrivée au pouvoir en 1964 du maréchal Castelo Branco, porté par la junte militaire, le pays entre dans l'ère d'une dictature répressive, meurtrière, qui va s'étendre sur plus de 20 ans. Mais ce n'est pas le régime qui lui porte préjudice, c'est une partie de l'opinion publique qui ne cessera de lui reprocher de n'avoir jamais pris parti pour le peuple brésilien, d'avoir été complaisant avec les dirigeants. Pelé n'a jamais voulu s'engager sur ce terrain-là, ni dans la lutte contre le racisme dans un pays où plus de la moitié de la population est noire ou métisse.
Pelé l'a dit lui-même, il n'avait pas les armes de l'intelligence et de la raison. Vers la fin de sa carrière, il est retourné à l'école. Il avait ce complexe-là, il était inculte et ça lui pesait, il était très complexé. Quand on n'a pas les armes de la raison, de l'intellect, lui, il préférait rester en dedans parce que il y a des gens qui ne savent pas faire, tout simplement.
Avec le recul, on peut dire beaucoup de choses. À cette époque, on est dans un pays cadenassé. Il faut savoir que tout Pelé qu'il est, il n'est pas à l'abri de la junte militaire. On sait, on a su après coup qu'il y a eu des enquêtes sur lui, qu'on l'a suivi. Un jour, il a eu le malheur de recevoir des mains de quelqu'un un tract. qu'il a pris pour une publicité, puis il l'a ramené chez lui, puis quelqu'un l'a trouvé, puis quelqu'un l'a dénoncé. Il s'agissait d'un tract politique.
Communiste.
Exactement. Dans ce genre de dictature où la paranoïa est la loi, Pelé, alors peut-être un peu moins qu'un autre, mais n'échappait pas à la suspicion. Il a été lui-même l'objet de plusieurs enquêtes. Et lorsque la dictature a pris fin, de nombreux joueurs qui lui avaient reproché à une certaine époque d'avoir des sympathies pour les différents généraux qui se sont succédés, ont fait marche arrière, hein, sont un peu retournés leur veste, comme notamment Paolo César, qui avait été un de ses pires contempteurs et qui a dit au final qu'à cette époque-là, n'importe quel Brésilien pouvait faire l'objet d'un enlèvement et d'une disparition, y compris Pelé.
C'est ici que s'achève notre deuxième épisode du Panthéon. Pelé, le roi du football. La vie du jeune Pelé a changé. Il est l'étendard d'un pays, le Brésil, le visage le plus connu du football mondial. Mais l'aventure ne fait que commencer. La Coupe du Monde 70 sera son apothéose. Pelé, le plus grand joueur de l'histoire, c'est l'horizon du troisième épisode.
Tête de Pelé, but !